C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Maintenant, je me tourne vers Lucien Bouchard, qui, vous le savez aussi, a été premier ministre et qui a donc renoué avec M. Mulroney dans les dernières années. Monsieur Bouchard, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand.
Comment ça s'est passé, j'allais dire, ce réchauffement de la relation entre vous et M. Mulroney?
C'est arrivé surtout le comté de l'an dernier. Ça s'est fait d'abord dans le cadre des retrouvailles de notre classe de droit 1963. Chaque année, la classe se retrouve, les gens viennent de partout. Mais pendant toutes ces années-là, pendant plus de 30 ans, en fait, le froid qui existait entre Brian et moi a créé beaucoup de... a jeté un ombre sur l'ambiance, un froid sur l'ambiance. Donc, on pouvait se rencontrer, mais il n'y avait pas de contact. C'était très délicat et, disons, embarrassant. Mais depuis environ un an, graduellement, les choses se sont réchauffées. C'est arrivé à l'occasion de rencontres impromptues d'abord, puis ensuite, ben là, évidemment, des appels téléphoniques. Et puis, depuis quelques mois, des rencontres personnelles, des rencontres en couple. Comme par exemple, Brian nous a reçus, selon moi, avec Miller. Ils nous ont reçus chez eux, on a mangé ensemble. Ça, c'était début janvier, je crois. Et puis, on s'est parlé au téléphone assez régulièrement, encore la dernière fois, vendredi dernier. Oui, vendredi dernier, en fin de journée. Puis à ce moment-là, ben, on a eu des rencontres personnelles, dans le sens que on s'est vraiment dit que c'était dur pour nous deux, embarrassant pour les entourages, que pendant ces 30 ans-là, vous avez vu ce schisme entre eux. Évidemment, c'est pas arrivé pour rien. Les enjeux étaient tellement lourds, tellement considérables. C'était un conflit de conviction. Je pense qu'on a tous compris qu'on avait des convictions différentes. À partir d'expériences de vie, de milieu, des convictions légitimes de part et d'autre. Et dans son cas, j'imagine encore plus obligatoire parce qu'il était premier ministre du Canada. Il y avait donc des obligations de ce côté-là que je comprenais. Je comprenais qu'elle était italienne, mais moi, je pouvais, donc, m'en suivre. Ça a provoqué une démission fracassante. Et comme on était dans la vie publique, ben, ça n'a pas été deux amis qui rompent comme ça. Puis, ils s'en parlent pas beaucoup au-delà des familles. Mais nous, c'était public. C'était très, très public. Très dur à vivre. Surtout parce qu'on était tellement près l'un de l'autre. Nous, notre amitié, M. Arcand, on avait 20 ans quand on s'est rencontrés la première fois à Québec. À l'Université Laval, où moi j'arrivais de Jonquière. J'étais presque pas souvent venu. Je pense que j'étais venu deux fois à Québec ou trois fois à Québec quand j'arrivais à Laval. Lui, il arrivait de Baie-Comeau. Et puis, ça a été donc une rencontre extraordinaire parce qu'on était jeunes, on venait du même milieu, un milieu modeste que le sien, modeste que le mien. Une sorte de culte qu'on vouait respectivement à nos parents, à nos pères en particulier, qui étaient décédés à ce moment-là déjà, alors que nos mères survivaient, avec tout le rôle que pouvait jouer une mère survivante. Et donc, les liens qui sont formés à l'époque étaient des liens étaient très, très étroits. Il est venu à mon mariage, il est venu à la mort de mon père. C'était proche, là. C'était extrêmement proche, de sorte que on a fait beaucoup de choses ensemble. Ensuite, ben là, il y a eu la vie publique. On a travaillé beaucoup ensemble. Et puis ensuite, moi, évidemment, je le considérais comme de ma famille. Et lui de même. Alors, la rupture a été vraiment, vraiment différente. Moi, je l'ai mal vécu, puis j'ai compris que lui aussi. Et quand les circonstances ont voulu, et surtout la volonté réciproque, et puis l'appui, entre autres, de Miller, dont j'ai compris qu'elle poussait dans le même sens, et puis d'autres personnes autour de moi aussi, la sagesse peut-être, un peu de sagesse, l'arrivée des 80 ans, un regard rétroactif sur la vie, ce qui est important dans la vie. Et ce qu'on doit faire quand on s'assagit, que les passions se calment, que les enjeux s'estompent dans le sens que les problèmes des oppositions entre souverainistes et fédéralistes, pour nous en tout cas, dans nos vies personnelles, c'était moins présent. En tout cas, tout ça a fait en sorte que on s'est retrouvés, puis là, ça a été extraordinaire parce que on avait beaucoup de choses à se dire. On avait tellement de souvenirs en commun. On a beaucoup ri parce que tout le monde sait que Brian avait un sens d'humour extraordinaire. Sa chaleur humaine. C'était, des retrouvailles qui, malheureusement, sont arrivées trop tard. Dans le sens qu'on n'en a pas profité aussi longtemps qu'on l'aurait souhaité.
Monsieur Bouchard, je vous amène sur le plan politique. Meech, ça a été une intense négociation. Un long processus qui, malheureusement, n'a pas donné le résultat que M. Mulroney voulait et d'autres premiers ministres. Si l'accord de Meech avait été ratifié, si l'accord de Meech avait passé, on en serait où aujourd'hui, vous pensez?
Écoutez, évidemment, c'est très, très difficile. C'est la science des futuribles de décrire ce qui arrivera ici, qu'est-ce qui arrivera. Mais moi, j'y ai cru fermement à l'accord de Lac Meech. Et moi, je suis de la mouvance René Lévesque, qui a le rêve d'un pays souverain. Si on peut le réaliser, c'est la solution. Mais on voit bien aujourd'hui que si on compare la situation où on est, parce qu'on n'est pas dans une très bonne situation présentement, je ne veux pas entrer dans le détail, et si on compare ça avec ce que Meech voulait accomplir, Meech, c'est extraordinaire, c'est le jour et la nuit. La situation qui aurait prévalu après l'accord du lac Meech et celle qu'on vit présentement, c'est le jour et la nuit. Le Québec était reconnu dans ce qu'il avait d'identitaire, dans ce qu'il avait de spécifique, on le laissait exercer des pouvoirs très importants, qui étaient déjà siens. Il y avait des reconnaissances de droits constitutionnels. C'était le climat, c'était un geste qui était posé après toutes les provocations, tous les coups qui ont été portés au Québec, entre autres par Pierre-Elliott Trudeau et le groupe fédéraliste de l'époque. Et puis on sent qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont de la même farine, on le voit bien. Après tout ça, qu'il arrivait quelqu'un qui tendait la main, puis qui disait, au nom du Canada, on va rétablir des rapports de respect, des rapports d'harmonie, des rapports de coopération et d'ouverture avec le Québec. C'était un discours, mais nouveau, mais extraordinaire. On n'avait jamais entendu ça. On avait entendu le contraire. Et en plus, le discours s'est traduit par des gestes constitutionnels, une négociation extrêmement complexe. Et là, Brian Mulroney a montré qu'il était le plus grand des négociateurs, en amenant tous les premiers ministres des provinces à signer l'accord du lac Meech. S'il avait pu être ratifié après, c'était une nouvelle ère qui partait pour nous. C'était quelque chose de nouveau, où le Québec aurait pu se déployer. Ça n'aurait pas été le Québec souverain, mais ça allait aussi vrai qu'on pouvait l'être dans le contexte du fait d'un fédéralisme intelligent que Mulroney incarnait. Alors, c'est une erreur tragique qui a été commise par le Canada anglais. Enfin, par ceux, pas tout le Canada anglais, parce qu'on les connaît, les acteurs principaux qui ont bloqué Meech. C'est tragique, parce que le Canada actuellement, ça marche sur un pied, des fois sur trois pieds, c'est compliqué. Puis en plus, il n'y a aucune reconnaissance des prérogatives québécoises. On voit les récents incidents dans la santé en particulier. On voit qu'ils ne veulent absolument rien entendre, parce que là, il y a un manque de respect au fond. On revient à ce que c'était autrefois, ce que Brian Mulroney a voulu corriger. Alors, c'était un grand premier ministre. Par rapport à... Il a fait beaucoup de choses, Brian. Bon, les gens comme Jean vient d'en parler en particulier, au printemps national, etc., les droits de l'homme, la place du Canada dans le monde, la gestion économique et fiscale du pays, les rapports avec les États-Unis, il fait des choses extraordinaires, mais par rapport au Québec, c'est le seul premier ministre qui, peut-être après Laurier, puis encore que Laurier, c'est pas la même chose, qui a voulu faire du Québec un véritable partenaire, de respecter l'esprit de la Confédération, un partenaire, à part entière, à l'intérieur d'un pays dont on est tous membres, avec la reconnaissance des aspirations du Québec. Alors, ça, c'est tragique. C'est une chose tragique, une grande erreur historique qui a été commise. C'est un rendez-vous qui avait été aménagé par le courage et le talent de Brian Mulroney, qui a été raté. Monsieur... Alors, on vit avec les conséquences négatives maintenant.
Monsieur Bouchard, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous. C'est très gentil.
Merci bien.
Merci. Lucien merci Bouchard. Beaucoup.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, c'était, j'allais dire, le tapis rouge, mais là, on m'a corrigé, c'est un tapis brun. Hier soir à Montréal pour le film Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve.
Un tapis de sable.
De sable.
Évidemment, on se retrouvait sur Arrakis. Alors, de la course Destination Monde à Dune, toute une carrière pour le réalisateur, celui qu'on appelle maintenant le maître de la science-fiction ou même Dieu dans la langue des Fremen. C'est Denis Villeneuve qui est avec nous. Bonjour, Denis.
Bonjour.
Ça a été une grande première canadienne hier. Pourquoi c'était aussi important de présenter le deuxième volet de Dune et avoir la vie des Québécois à Montréal?
Ben, c'est l'étape finale hein, de confronter le film aux gens qui sont proches de moi, à ma famille, aux amis. C'est la dernière étape. Après ça, je peux laisser aller le film. Puis c'était important pour moi de venir présenter le film à ma gang à Montréal. Ouais.
Et Denis, je vais vous faire entendre des jeunes Québécois qui étaient sur place. Certains ont attendu de 4 heures le matin jusqu'au soir pour vous rencontrer. Et voici ce qu'il y avait à dire.
Premièrement, c'est un Québécois. Puis le fait qu'il a eu du succès à Hollywood, pour moi, c'est insane.
Je suis une très grande fan de Denis Villeneuve depuis que je suis vraiment, vraiment jeune. Tout m'intéresse, l'univers m'intéresse. Je trouve que Denis, c'est vraiment un des plus grands cinéastes en ce moment qui fait des films. Là, il est au même niveau que Christopher Nolan.
Avoir un directeur québécois là, reconnu de même à travers le monde, c'est vraiment spécial.
C'est vraiment inspirant
c'est
pour les jeunes.
Il est à la hauteur de Céline Dion aussi au Québec.
Moi, je suis une grande fan de Denis Villeneuve là, depuis Arrival. C'est comme un de mes films préférés. Donc, c'est sûr que tout ce qu'il fait comme directeur, ça m'intéresse.
C'est le hometown de Denis. Là. Fait que c'est spécial pour les Québécois.
Alors, c'est très drôle d'entendre les jeunes dire « il est insane ». C'est le hometown de Denis, le Christopher Nolan ou encore le Céline Dion de la réalisation. Est-ce que vous êtes conscient de l'impact que vous avez chez les jeunes d'ici?
Ben, je dirais que ça, ce qui me touche, c'est justement d'entendre de la jeunesse dans la voix. Quand on fait du cinéma, c'est-à-dire que c'est moi, je crois beaucoup à la pérennité de l'expérience en salle, au futur du cinéma, puis d'entendre cette jeunesse, je dirais, ça me réjouit beaucoup.
Est-ce que vous avez envie de passer à autre chose maintenant, de dire la science-fiction, là, j'ai fait ma marque, puis c'est sûr que j'imagine beaucoup de producteurs vont aller vous voir en disant on a un autre produit ou un autre projet de film de science-fiction, mais est-ce que ça vous tente de toucher à autre chose?
J'ai d'autres projets, c'est-à-dire qui sont pas de science-fiction. J'ai deux autres projets qui sont comme des projets, un projet historique puis un projet plus contemporain qui sont en marche. Mais le genre de la science-fiction, c'est des vieux amours. Hein. C'est quelque chose qui m'habite depuis très très longtemps. Puis je vais y demeurer. Je vais continuer. J'ai d'autres projets de science-fiction aussi en branle. C'est mon amour premier. C'est.
Avec évidemment l'œuvre de Frank Herbert que vous avez découvert quand vous étiez adolescent. Pour le deuxième volet de Dune. Évidemment, il y a toujours les fans très, très finis de Frank Herbert qui veulent avoir l'œuvre originale, qui ont adoré le premier. Vous avez des fans aussi qui n'ont pas connu du tout cette œuvre-là, qui n'ont pas lu le livre, mais qui ont beaucoup aimé le film. C'est quoi le défi pour le deuxième volet, justement, pour être certain que ces deux mondes, ces deux univers se réunissent?
Bien, premièrement, il y avait un défi qu'on s'était mis dès le départ, c'est que de faire en sorte d'essayer le plus possible que le deuxième film soit autonome. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas vu le premier film puisse quand même apprécier puis comprendre l'histoire dans le deuxième. Donc, on a fait comme un résumé au début du premier. Comme tous les éléments sont là pour que quelqu'un qui a aucune idée de cet univers se sente pas trop égaré. Ça, c'est un des premiers défis qu'on s'est lancé.
Et tourner un film comme Dune, on le sait, avec un budget de près de 190 millions de dollars, là, je sais qu'on peut pas beaucoup parler de film, mais d'argent, parce que ça reste quand même privé, mais ça coûte extrêmement cher. Vous avez tourné à Abu Dhabi, vous avez tourné en Jordanie, à plusieurs endroits, c'est des grosses équipes de tournage. On sous-estime souvent la complexité que ça peut être, et vous avez tourné des mois dans le désert. C'était comment, justement, ce tournage? Est-ce que c'était plus compliqué pour le deuxième?
Oui, absolument, parce que pour le premier, on a tourné dans deux grands déserts. On a tourné en Jordanie et à Abu Dhabi. Et Abu Dhabi, c'est la mer de sable. C'est un désert extrêmement dur, extrêmement puissant,
mais c'est un vrai désert, donc il fait extrêmement chaud. Et dans le premier film, on est allé là, seulement quelques jours à équipe réduite. Pour le deuxième, on est allé avec une pleine équipe. Ça demandait un travail de logistique assez énorme pour construire des villages, construire des bases pour protéger l'équipe. On a construit une trentaine de kilomètres de routes dans le désert, mais je dirais des routes éco-friendly, c'est-à-dire qui étaient comme des routes qui ont probablement déjà disparu, mais quand même, il y a eu un gros travail de logistique pour pouvoir être capable d'amener l'équipe dans les locations où on voulait.
J'aimerais vous entendre sur le plaisir de faire de la science-fiction. Qu'est-ce qui fait qu'un réalisateur a envie de faire ça? Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce que vous allez chercher dans la science-fiction?
Mais plusieurs éléments. Premièrement, c'est un genre qui permet d'explorer des thèmes qui peuvent être plutôt plus acerbes ou plus durs ou plus rébarbatifs, mais de manière ludique où on a une perspective parce qu'on parle d'un monde qui n'existe pas encore. Par exemple, dans Dune, on parle de religion et de pouvoir. Puis je peux me parler de ça sans offenser personne parce que je suis dans un monde complètement imaginaire. Il y a aussi le fait que, franchement, pour un réalisateur, c'est la panacée parce que on crée tout. Je veux dire, s'il y a une fourchette à l'écran, il faut que je la crée. S'il y a un bol, s'il y a les costumes, les décors, ça devient comme on devient complètement maître complet d'un univers. Puis je trouve que c'est une façon incroyable de rêver.
Et on parle de Dune depuis des mois, en fait. On attend ce deuxième volet avec beaucoup d'impatience qui, je rappelle, va prendre l'affiche officiellement demain, mais ce soir, il y a plusieurs salles de cinéma qui le présentent. Rarement, on a vu un film qui a autant fait parler au niveau du marketing, aussi tournée promotionnelle. On vous a vu Mexico, Londres, Paris, Séoul, New York, le studio Warner qui a mis énormément d'argent. Est-ce que tout ça fait en sorte, puis il y a beaucoup d'attentes parce qu'on se dit, c'est peut-être le film qui va ramener les gens en salle. Est-ce que cette pression-là, vous la sentez? Est-ce que vous la vivez?
Ben, c'est-à-dire que oui et non, c'est-à-dire que oui, non, plus que oui que non. Oui, je veux pas, non, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'excitation qui est là, puis un engouement, puis le comme on dit en bon français, le buzz est très fort. Ça veut dire je suis tombé en amour avec le cinéma, avec des films qui étaient grand public. Puis quand j'ai fait Dune, j'avais ce désir d'essayer d'aller me frotter à cette zone-là. Donc, si le film génère un peu de passion, c'est sûr que ça me fait grand plaisir. C'est pas pour mon égo, hein. C'est juste pour avoir la joie de voir des gens aller au cinéma.
Ben, Denis Villeneuve, bravo pour Dune. C'est un film extraordinaire. C'est un chef-d'œuvre. À mon avis, j'en ai parlé. J'ai rarement vu un film qui m'a prise autant dans les émotions, mais aussi au niveau visuel. C'est un tout, hein. C'est ça, aller au cinéma. Et on rappelle que le film, donc, est à l'affiche à compter de ce soir et demain, partout à travers le monde. Merci infiniment, Denis Villeneuve.
Ça m'a fait super plaisir.
Merci, bonne journée.
Merci pour la générosité. À plus tard. Merci.
Au revoir.
J'annonce à l'instant un grand concours de beauté et de talent, Miss Sainte-Foy 1976.
Un concours? Un peu comme les duchesses.
Ah, mieux, je dirais. Concours de personnalité, épreuve de maillot de bain, démonstration de talents musicaux et autres. Alors, on invite toutes les fidéennes à s'inscrire. Il s'agit simplement d'avoir moins de 35 ans, puis bon, il y a des limites aussi là, au niveau du poids. Là.
Et quel est le prix?
1000 beaux dollars.
Encore un autre batch? Hey, tu peux-tu y mesurer avant que je lui parle? Ça m'inviterait de parler aux boulottes.
Si vous voulez, oui.
Ah, puis non, laisse donc faire. C'est-tu mon concours ou c'est pas mon concours?
C'est votre concours.
Donne-moi le tape. Bring the meat.
C'est un extrait de la nouvelle saison de C'est comme ça que je t'aime. C'est l'ultime saison. François Létourneau, l'auteur, acteur, réalisateur, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Patrice Robitaille, qui est acteur, réalisateur. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Merci de nous accueillir.
J'avais 16 ans à cette époque-là. Et quand j'écoute vos épisodes, je me dis, on était-tu si cave que ça tout le temps?
Je sais pas. Mais nous, on est nés à cette époque-là. On est nés en 74, François et moi. Fait que c'est comme un peu la vie de nos parents, en quelque sorte.
Mais je pense que, mais c'est un peu une, c'est de la fiction, hein. C'est pas une série, j'ai pas fait beaucoup de recherches, là. Je m'amuse, tu sais. Puis, ce personnage-là, joué par Robert Lepage, c'est le maire de Sainte-Foy, j'imagine qu'il y avait des hommes comme ça à l'époque. Hein? Il y en a encore comme ça maintenant. Il est pas très, il y a pas beaucoup de considération pour Huguette. Ça, c'est dans le deuxième épisode, mais Huguette va se venger. Dans l'épisode 7 de la saison 3, elle va vraiment, elle va se venger.
Du maire.
Oui.
Ouais. Ben, de tout le monde, en fait.
Ben, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu le thème, c'est la vengeance.
Oui, ben, en fait, la saison 3, c'est vraiment... La saison 2 se terminait dans une catastrophe. Huguette a tout perdu, puis on la retrouve en 76, un an plus tard, puis elle a toujours tout perdu. Et l'organisation...
Le crime organisé montréalais fait comme pression sur la petite organisation d'Huguette à Sainte-Foy, puis... lui ordonne de cesser ses activités, puis ils veulent plus qu'il y ait de criminalité autour d'Huguette de Lille. Puis là, Huguette va vraiment être bafoué, on va vraiment l'humilier. Le personnage de Robert est un de ceux qui va l'humilier. Le personnage de Xavier Dolan aussi, que joue Xavier, va vraiment humilier Huguette.
Yves Jacques, je dirais.
Yves Jacques ouais. aussi. Ouais. Puis à un moment donné, ben là, elle en a assez, puis elle va vraiment décider d'aller faire la guerre à Montréal et au crime organisé montréalais, puis ça va brasser en s'il vous plaît.
Ouais, puis dans les deux premiers épisodes de la saison 3, ce qu'on voit, c'est cette espèce d'humiliation qui n'en finit plus. Mm-hmm. Puis à partir du troisième épisode, là, ça va être le réveil du Guette et sa vengeance sera terrible.
J'imagine. Je regardais le premier épisode et c'est assez violent. Là. Les premiers moments, là, on n'est pas dans la dentelle. On ne devine pas, là, on voit.
On voit, ouais.
Oui, il y a quelques morts. Mais j'aimerais dire que la saison 2 était aussi particulièrement
violente.
Ouais. Mais la saison 3, il y a toujours de la violence, très important. Beaucoup de morts. Mais il y a aussi de la tendresse. Puis je trouve que la saison 3, ce qu'il a dit des autres saisons, c'est qu'il y a beaucoup de tendresse, puis il y a quelque chose d'intime aussi, ouais. Parce que c'est comme ça que je t'aime, c'est une histoire de criminalité, mais c'est surtout une histoire de couple aussi, c'est l'histoire de deux couples qui ont de la difficulté, puis qui, dans la saison 1, ils ont plongé dans la criminalité pour essayer de se retrouver.
Mettre du piquant dans leur relation.
Ça a marché un peu, mais pas trop. Puis dans la saison 3, c'est ça, on continue de suivre ces couples-là, puis on se dit, coudon, ils vont-tu réussir à se retrouver? Qu'est-ce qui va leur arriver? On espère qu'ils vont se retrouver.
Mais je suis un peu tordu parce que j'écoutais ça avec en arrière-pensée la guerre de gangs à Québec actuellement. Avec un groupe plus ou moins articulé contre les puissants Hells Angels.
Ouais.
Tu dis là, ce sont les caïds de Sainte-Foy qui... Tu sais, les caïds de Sainte-Foy, ça va pas ensemble.
Non, c'est ça. Je me suis amusé à imaginer une organisation criminelle à Sainte-Foy. Je pense qu'il y en avait pas beaucoup à Sainte-Foy en 76. Mais c'est drôle parce que moi, je connais pas beaucoup le crime organisé, puis sûrement que vous en connaissez plus.
Oui, oui.
Mais j'ai quand même fait quelques recherches quand j'ai commencé à écrire la série. Tu sais, il y a certains parallèles avec les
gangs ici, oui. le crime organisé, ben tu as fait des recherches pour ce qui se passait à Montréal.
Oui, c'est ça.
Tu sais, fait que là, au lieu que ce soit les frères Dubois, c'est les frères Lavoie. Tu sais, t'as le gang
la gang de l'Ouest, les Irlandais, c'est ça. On va tout découvrir,
les
ça
Calabrais,
dans la troisième
les Siciliens, tu sais, il y a vraiment tout ça là. Donc
je me sers un peu de l'histoire mais je m'en sers quand ça fait mon affaire, c'est pas très la recherche est pas très fouillée.
Mais vous avez dans la série des personnages atypiques, c'est sûr, là, mais très campés. Il n'y a pas, de personnages un peu sans saveur.
En demi-teinte. Mais François écrit beaucoup comme ça. Puis François, c'est fou, mais son écriture permet, moi je trouve beaucoup dans les personnages en périphérie des personnages principaux, d'aller dans des zones où on peut rarement aller comme acteur. Tu sais, il y a vraiment, tu sais, il y a des personnages, je sais pas, je pense au personnage, mettons, joué par Patrick Drolet, qui fait le curé. Oui, là, ouais. Tu sais, il peut vraiment avoir un jeu... je dirais plus appuyé, mettons. Puis ça marche. C'est comme si l'univers que crée François permet ce genre d'excès-là. Puis je trouve ça vraiment rafraîchissant.
Mais c'est très rafraîchissant parce que je dirais pas que c'est une bande dessinée, mais...
Mais il y a un côté décalé. C'est pas tout à fait... Moi, je pense que j'essaie, quand j'écris, d'être très incarné, puis je veux que les émotions soient vraies, mais il y a quelque chose dans mon humour, tu sais, d'un petit peu décalé, ce qui fait que c'est pas tout à fait... Il y a personne qui parle vraiment comme mes personnages. Il y a comme quelque chose d'un peu décalé.
Ouais, un pied dans la marge un peu tout le temps.
Oui, mais j'essaie quand même, le défi, c'est qu'il faut pas que ça soit trop décalé non plus. Il faut que ça reste inscrit dans quelque chose de vrai.
Ouais.
Mais il y a toujours ces deux affaires-là dans mon écriture.
Comment réagissent les diffuseurs, enfin le diffuseur ou les producteurs quand ils lisent vos textes? La première fois, ils ont-tu dit « on s'en va où avec ça »
Avant, j'avais fait avec Jean-François Rivard une série qui s'appelait Série Noire, puis on a fait Les Invincibles avant. Donc, quand je suis arrivé avec la proposition, c'est comme ça que je t'aime, ils connaissaient un peu mon écriture puis mon humour. Donc, ça a été comme... En fait, ce qui était un peu difficile à vendre, c'est le côté série d'époque. Maintenant, il n'y a plus d'argent beaucoup. Là. C'est difficile de financer, tu sais... les séries, puis c'était ça le défi. Mais
là, François est modeste, mais François jouit d'une liberté, je dirais, que peu de créateurs ont en ce moment là au Québec. Là, il y en a, là, je dis pas qu'il est le seul, mais il y a le luxe du temps aussi pour écrire que certains ont pas. Il est vraiment, c'est un gars entier qui est très exigeant puis qui il laisse rien passer. Fait qu'il demande d'avoir ce temps-là pour écrire, puis on lui donne, puis moi je trouve ça magnifique, tu sais, c'est un réel créateur, c'est un réel artiste, puis il va au bout de ses idées.
Mais ça donne des résultats.
Ouais, mais je dois dire, c'est ça que j'ai toujours à Radio-Canada, je veux pas têter, là, mes patrons.
Même si t'as un autre projet à leur présenter.
non, pas du tout, il y en a pas.
J'ai toujours joui d'une très belle liberté, puis, tu sais, mes séries sont pas des séries qui sont super populaire non plus, tu sais, c'est pas stats, là, tu sais, on fait pas les codes d'écoute de, mais on a quand même un fan base qui revient de séries, qui est fidèle, puis il y a plein de gens aussi qui écoutent pas nécessairement la télé, mais qui vont aimer mes séries parce que justement ce petit côté là un petit peu différent, ça les attire.
Ouais. Patrice Robitaille, t'as joué un paquet de personnages de tous les genres, de tous les styles, celui-là il se démarque comment pour toi?
Ben, tu sais, moi, ce qui me fait, ce que je trouve très flatteur, c'est que c'est de l'écriture sur mesure. Tu sais, François, c'est mon meilleur ami. Tu sais, et je sais que quand il écrit le personnage de Serge, il pense à moi, puis j'ai même le goût de dire qu'il y a un peu de moi qui nourrit le personnage de Serge.
Quand je peux regarder la série, je me dis, je reconnais.
Ben, des fois, il y a des petits détails que je sais qu'en lisant les textes, je vais dire, je vole un peu des petites affaires. Okay.
Fait que tu sais, c'est rare là, que tu joues quelque chose qui est vraiment... C'est pas un habit que j'ai acheté au magasin, c'est un tailleur qui a fait ça pour moi. C'est vraiment ça. Fait que c'est tellement jouissif, là, je sais que c'est ça.
Mais Patrice, c'est un de nos meilleurs acteurs, là. Puis tu sais, moi ça donne que c'est mon ami depuis le cégep, donc je me trouve chanceux aussi. Puis moi quand j'écris, je sais pas, il y a tout le temps comme un personnage, je me dis, hey, ça va être Patrice. Puis j'aime tout le temps, dans presque tous mes projets, tout le temps, ça va être Patrice. J'aime ça travailler avec lui. Puis là, en plus, on a réalisé cette année, c'était tout un défi.
Est-ce que c'est la première fois que vous réalisez ensemble?
On n'avait jamais rien réalisé, ni lui, ni moi. Donc oui, c'est la première fois qu'on réalise ensemble, c'est la première fois qu'on réalise tout court. C'était toute une aventure.
Parce que?
Ben parce que c'est gros, c'est une job qu'on n'avait jamais fait, puis faut le dire là, c'est une job en soi. Réaliser, c'est une moyenne galère, c'est immense, puis c'est un gros navire à faire bouger là, tu sais, c'est une grosse production.
On avait quand même certains outils là, tu sais, on a tourné beaucoup, Patrice beaucoup aussi, puis moi comme scénariste puis comme acteur, j'ai beaucoup, je suis toujours très impliqué dans mes séries, puis avec Jean-François Rivard qui a réalisé la première saison puis une partie de la deuxième saison, j'ai toujours été très impliqué dans la production, fait que j'ai comme appris un peu en même temps, il y a plein de choses que je savais pas qu'on a appris sur le tas, mais ça a été vraiment le fun, puis pour moi c'est une expérience vraiment j'aime ça avoir le contrôle un peu là. Je suis un peu control freak, fait que là je l'avais vraiment.
Quand vous voyez les réactions, tout le monde parle du New York Times, puis on compare ça à Fargo, puis des frères Coen, vous pincez quand vous entendez ça? Ou...
Je dirais pas tant que ça. Moi, il y a quelque chose qui m'énerve un peu, parce que je trouve qu'au Québec, on est tellement... On dirait que dès qu'il y a un... On dirait qu'on ça prend tout le temps un peu comme...
Une étiquette.
Il faut être validé par l'extérieur. Tu sais, c'était comme ça pour Félix Leclerc. Souvent, puis on dirait que c'est encore ça un peu. Moi, ça me fait super plaisir. En plus, New York Times, je le lis tous les matins. Mais on dirait que ce soit repris systématiquement, puis que c'est ça comme un saut de validation. Il me semble qu'on n'a pas besoin tout le temps d'avoir
l'assentiment, l'aval de
l'extérieur pour avoir confiance en nous puis dire que c'est bon, là. C'est bon. Mais ceci dit, je suis content, là.
Oui, non, mais c'est dit, mais moi, je suis parfaitement d'accord. Je partage ton point de vue. Ouais. Je trouve que, c'est ça, des fois, assumons puis soyons fiers de ce qu'on fait sans qu'on ait le saut d'approbation, soit des Français ou.
Mais ceci dit, c'est vraiment le fun parce que la série, elle existe aux États-Unis. Elle est sur Amazon Prime, puis je me dis, c'est le fun, tu sais, c'est une série. En français sous-titré, puis je sais pas combien de gens vont l'écouter.
Il y a tout un débat sur la présence des produits d'ici sur les plateformes, Spotify, Netflix, Prime et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais ça vous entendre. Vous êtes des créateurs, vous êtes des acteurs, vous écrivez. Est-ce qu'il faut vraiment, exemple, dire à Netflix, il faut que tu aies une fenêtre québécoise de produits d'ici, dire ça à Prime? Est-ce qu'on doit les amener à faire ça? C'est vrai pour peut-être la musique, mais pour la télé ou les séries?
Ah, c'est une grande question.
Hey, on en parle souvent de ça. Hein? Ben, nous autres, on dit tout le temps, puis il y a beaucoup de gens au Québec qui disent ça. Moi, je pense que si au Québec, je sais que ça arrivera jamais parce qu'il y a des intérêts commerciaux qui s'opposent, mais si au Québec, on avait au moins une seule plateforme avec tout le contenu québécois, je me dis, tu sais, il y a X13 qui est sorti sur Helico, là, il y a sur Tout.tv, il y a C'est comme ça que je t'aime. Si ces deux séries-là étaient comme sur une même plateforme, il y aurait un effet d'entraînement. Là, c'est impossible. Moi, c'est impossible de s'abonner. On dirait qu'on est tous perdus. Il y a trop de contenu.
C'est ça le problème. Le mot que tu viens de dire, François, le mot « contenu », moi, il y a quelque chose qui me gêne là-dedans, parce que ce qu'on cherche à faire, on dirait, c'est de générer du contenu, alors que ce qu'on devrait essayer de faire, ce sont des œuvres. Donc, on devrait faire des trucs dont les gens seraient fiers, puis je trouve que c'est cette espèce de fierté-là qu'on a un peu perdu. Moi, il y a un discours que j'entends beaucoup, puis qui me gêne un peu. J'entends, moi, j'écoute pas la télé québécoise, puis on dirait que les gens s'enorgueillissent de ça, puis je trouve ça un peu épeurant. Puis ce que j'entends aussi, c'est visiblement il y a beaucoup de gens qui font des casse-têtes, parce que j'entends beaucoup. Moi, j'ai pas de télé, Et moi, je me promène avec mon chien le soir, toutes les télés sont allumées dans la maison. Là. Arrêtez de nous bullshiter, ça m'énerve. Mais bref, je peux comprendre peut-être qu'ils ont plus le câble, c'est ça qu'ils veulent nous dire, mais en même temps, ils consomment quand même de la culture.
Par des applications.
C'est ça, par des applications diverses. Fait que, moi, j'aurais le goût qu'on recommence à être fiers de ce qu'on fait ici, tu sais. Fait que ça veut pas dire de le faire au détriment de ce qui se fait ailleurs. C'est sûr qu'il se fait des super bonnes séries ailleurs avec d'immenses budgets. Mais je pense qu'il faut aussi continuer. Puis c'est pas de faire la charité, là. C'est pas ça. Mais faisons des séries dont on est fier, puis essayons d'aller, je trouve qu'il y a un devoir des parents envers leurs enfants aussi, de les inciter à regarder des émissions d'ici, puis soyons fiers d'être Québécois, puis de notre exception francophone. Puis rien, c'est pas juste un truc politique, mais en tout cas, ça a un peu l'air de ça, mais...
J'aime ça pour mon ami, c'est son côté un peu hotliner là, qui ressort. Patrice serait très bon animateur de radio. Tu devrais essayer.
Non, mais c'est une téléphonique qui serait pas mal bon.
En plus, ça, c'est le côté, ça, c'est la version...
C'est le côté soft.
Moi, au téléphone, quand on se parle, j'ai
pendant la pause, je veux voir le côté réel. En terminant, je voudrais te remercier d'avoir créé la chanson qu'on aime tant. Cette chanson mythique. Sylvain Cossette va m'envoyer une mise en demeure, mais quand même.
Une jument doit marcher.
Hey, ça fait un peu, j'entends. Hey, pas dans la saison 3.
Excuse-moi. Alors, l'ultime saison, la dernière, c'est comme ça que je t'aime. C'est disponible dès vendredi sur ici, tout.tv extra. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci
François
beaucoup.
Létourneau et Patrice Robitaille.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
On vient de sortir de négociations dans le secteur public, entre autres avec les profs. Et un des griefs les plus entendus concerne la composition de la classe. Donc, d'abord, le nombre d'élèves qui ont ce qu'on appelle un plan d'intervention et le nombre d'élèves médicamentés. La question qu'on se pose tous, tout le temps, pourquoi il y a autant d'enfants qui ont des problèmes? Pourquoi il y a autant d'enfants qui ont besoin d'un médicament, entre guillemets, pour être capable de se rendre à l'école? Céline Lamy est avec nous. Elle est pédopsychiatre, psychothérapeute, professeure adjointe à l'Université de Montréal en psychiatrie, mère de 4 enfants, donc elle a l'expérience terrain. Elle nous arrive avec un livre qui s'appelle « Le drame des enfants parfaits pour une permaculture de l'enfance ». Docteur Lamy, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
C'est un livre coup de poing que vous avez pondu, là. C'est-à-dire, et en même temps, une forme, j'allais dire, de signal d'alarme pour tous les parents. La médication ou le diagnostic d'une maladie peut pas régler tous les problèmes et peut pas expliquer aussi pourquoi il y a des enfants qui ont des difficultés à l'école.
Effectivement, c'est un coup de poing, puis c'est un signal d'alarme, un cri d'alarme, en fait, parce qu'on est vraiment dans l'ère du surdiagnostic. C'est pas tant le diagnostic qui me pose problème quand il est bien posé, puis qui répond effectivement à des symptômes particuliers, je suis d'accord avec ça. Mais là, on a fait rentrer l'enfance, puis tous les élans de l'enfance, dans quelque chose d'extrêmement étriqué, qui fait dire qu'à partir du moment où un enfant déraille un peu d'une norme, alors il est comme à risque d'échouer, à risque de rentrer dans un chaos de vie. Et donc, de fait, quel parent voudrait précipiter son enfant là-dedans? Donc, on va effectivement très, très vite voir le médecin pour demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qu'il est. C'est quoi son problème? Et on oublie effectivement que nos enfants sont dans de multiples systèmes et qui réagissent, je dirais, à l'étriqué de tous ces systèmes-là. Donc, plutôt que de se poser en tant qu'adulte et en se disant qu'est-ce qu'on leur impose, qu'est-ce que c'est que ces systèmes qui les de plus en plus, ben on va juste se dire ben c'est l'enfant qui a un problème. Résolvons ça rapidement, puis n'en parlons plus.
Mais c'est un corridor très étroit pour l'enfant, c'est-à-dire que s'il est un peu taciturne, il y a une inquiétude. S'il est exubérant et se manifeste encore là, il faut qu'il demeure dans ce couloir très, très serré.
C'est intéressant que vous parliez de couloir parce que j'écoutais un hydrologue qui parlait de ce qui se passe avec les rivières en ce moment et comment, parce que les agricultures vont plus de bord à bord, corsettent les rivières, augmentent le débit à l'intérieur. Donc là, on augmente le débit de ce qui se passe pour les enfants. On les développe très, très vite. Mais ça érode et ça fait baisser, en fait, les rivières. Et ça empêche la nappe en dessous d'aller comme irriguer les terrains alentours. Donc on tarit, en fait, complètement la source de l'enfance. On tarit la possibilité que chaque enfant apporte quelque chose à l'édifice avec sa singularité. Mais effectivement, par contre, il reste dans le corridor. Donc si on prend effectivement cette métaphore de la rivière, c'est assez intéressant. Intéressant parce que il se passe avec la nature ce qui va se passer aussi avec l'enfance. On a réifié la nature, on est en train de réifier l'enfance en oubliant complètement quels sont les besoins fondamentaux des enfants, de quoi ils ont besoin réellement, puis on les pense comme des choses alors que c'est des sujets de droit, hein, qui ont des droits dans la commission des droits.
Et qu'est-ce qu'ils ont besoin réellement, les enfants?
C'est assez simple, en fait. C'est très, très simple, on a oublié. Ils ont besoin déjà d'un attachement sécure. Qu'est-ce que c'est un attachement sécure? C'est une figure d'attachement, un parent ou des parents qui va les faire exister, rien que dans le regard, de dire je te vois comme tu es, bienvenue dans le monde. Puis ça, c'est un accompagnement qu'on a de tous les instants. Quand on utilise le mot discipline, au sens propre du terme, disciplina, ça veut dire être le guide, le maître et l'élève. Donc la discipline, c'est pas faire de l'éducation coercitive, c'est accompagner l'enfant et le guider pour le faire exister et lui donner les outils pour la société. Donc ils ont besoin d'un attachement sécure, ça veut dire je sais que je suis accepté tel que je suis, tel qu'on on me voit, et je peux ensuite, parce que je sens qu'à côté de moi j'ai quelqu'un qui m'aime, je peux aller explorer le monde. Donc c'est être bien attaché de façon sécuritaire pour pouvoir se détacher et aller explorer le monde. Ça, c'est la première chose. Ils ont ensuite besoin de jouer. Le jeu, c'est le métier de l'enfant. Pauline Kergomar disait ça, je trouve que c'est essentiel. Et là, les neurosciences nous le disent. Un enfant apprend d'autant plus qu'il joue, parce qu'on stimule son système du plaisir, sa dopamine, et parce qu'il apprécie et parce qu'il est dans l'enthousiasme, alors il retourne vers la tâche avec plaisir. Donc, apprendre, c'est jouer pour l'enfant. Donc, les enfants ont besoin d'un attachement sécure, ils ont besoin de jeu. Ils ont besoin qu'on les laisse aussi dans la créativité, dans cette naïveté de l'enfance.
Mais est-ce qu'on n'a pas tendance, et là j'inclus l'ensemble des adultes autour des enfants, de vouloir les faire vieillir de façon prématurée?
Absolument.
De dire... Des parents qui partagent avec des enfants leur niveau de stress professionnel, des parents qui, par exemple, ont une rupture et deviennent l'ami de l'enfant. J'ai souvent entendu ça. On peut pas être l'ami de son enfant.
Non, on peut pas être l'ami de l'enfant. Puis cette idée de faire grandir l'enfant très vite, c'est-à-dire, beaucoup de parents m'appellent en me disant comment je peux faire pour qu'il devienne plus vite indépendant, pour qu'il se détache de moi. Ben, mes amis, pour qu'ils soient plus indépendants et qu'ils se détachent, il faut qu'ils soient déjà très attachés, qu'ils soient sécures. Et l'indépendance, ça s'acquiert avec le temps. C'est être capable de penser par soi-même, être capable de faire preuve d'empathie, d'aller vers les autres, ça prend du temps. La maturité cérébrale, c'est 25 ans à peu près. Donc, on n'est pas sorti du bois. Donc, effectivement, vouloir forcer ça, évidemment que l'enfant, à un moment donné, va crier son malaise. Donc, va donner des symptômes. C'est ce que je dis dans le livre. Les symptômes qu'on voit sont une formidable façon pour l'enfant de nous dire arrêtez tout. L'enfant, il ne peut s'exprimer que par son corps, parce qu'évidemment, le mot est difficile, l'expression émotionnelle est difficile, il n'est pas encore mature pour ça. Alors, les enfants, les plus petits, vont être dans le comportement.
Qu'est-ce que vous dites aux enseignants, enseignantes qui nous écoutent? J'ai 25 élèves, j'ai 30 élèves, je peux pas faire un programme particulier pour chacun des enfants. Je suis obligé d'avoir un certain nombre de règles et de normes. Puis il y a des enfants qui ont de la difficulté à cadrer avec ça.
C'est une réalité. Déjà, je leur dis bravo parce que c'est incroyable, effectivement. Moi, j'en ai un dans mon bureau, puis des fois, je trouve ça très difficile pour les parents, etc. En fait, je m'adresserai pas tant aux enseignants qu'au grand chef, parce que à chaque fois, on va voir dans les systèmes en infra, le système parental, le système médical, le système scolaire, puis on essaye de se débrouiller entre nous. Puis des fois, on se parle entre systèmes, mais il y a quand même un grand système au-dessus qui dont on dépend tous, puis qui donne ces injonctions-là, qui donne ces normes-là, et on répond comme des bons petits soldats. Alors j'ai envie de dire, bah, parlons-nous en tant que bons petits soldats qui répondons à ces normes-là, puis entrons peut-être dans ce que j'appelle la désobéissance créative. Il va falloir imaginer d'autres choses, des choses qui existent dans d'autres pays, ailleurs, qui fonctionnent bien, que ce soit à l'école, dans
des
le système de santé. Dans le pays, en Scandinavie, par exemple, en Finlande, il n'y a pas de notes jusqu'à l'âge de 13 ans. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas évalué sur quelque chose de très factice qui est à un moment donné sur une feuille, tu vaux 30%, mais on va évaluer sa créativité, sa capacité d'entrer en relation avec les autres. On va l'outiller pour être au monde et pas juste avoir cette idée de je vaux un 30%. Donc, les enfants rentrent pas dans cette comparaison, dans cette hiérarchie, jusqu'à ce qu'ils soient, je dirais, dans cette maturation cérébrale pour comprendre effectivement ce que ça veut dire une note.
Les garçons décrochent plus que les filles, ça c'est documenté. Est-ce que ça prouve que le système scolaire québécois est moins bien adapté aux gars que pour les filles?
Non, je dirais que le système scolaire tout court est moins bien adapté à tous les enfants.
À tous
garçons,
les enfants.
Filles, enfants avec des troubles des apprentissages, enfants avec des défis. Ce système scolaire, ce que j'appelle dinosauresque, il est caduque. Puis c'est pas lié aux professeurs. J'ai des amis professeurs qui ne cessent de me le dire. Je voudrais faire autre chose. Je me forme avec mes sous pour avoir d'autres types de prise en charge, de techniques. Je parle de Montessori, je parle d'autres. Mais ils peuvent pas. Ils ont pas le temps. On est coincé dans une temporalité aussi actuellement, c'est-à-dire que l'adulte est pressé, pressionné dans une temporalité qu'on appelle le chronos,
mais
le temps des agendas.
Vous disiez tantôt l'importance de jouer, par exemple. Il y a beaucoup d'écoles qui ne veulent pas que les enfants sortent parce que c'est trop de temps pour les habiller, les déshabiller, ils vont se blesser dans la cour, on va avoir une poursuite. Bref, on aime mieux pas les faire jouer, alors que j'imagine ils vont jouer dehors, ils vont revenir après, puis ça va être encore plus agréable dans la classe.
Exact. Et puis, ben, en fait, les privés de jeu, c'est se tirer une balle dans le pied pour le retour en classe, à savoir que, ben, dans ces cas-là, les enfants ont rien expulsé, puis vont exprimer ce besoin-là corporel en classe. Donc, c'est sûr qu'on a des classes qui sont explosives et électriques. C'est physiologique de toute façon. Mettez un adulte pendant 8 heures dans un bureau en lui disant, tu t'assois, tu bouges pas, tu parles pas, t'écoutes ton patron. C'est physiologiquement impossible pour un adulte, mais on demande à un enfant immature de le faire. Ça fonctionne pas.
Si vous étiez ministre de l'Éducation, qu'est-ce que vous feriez en premier?
Je convoquerais réellement les professionnels de l'enfance du terrain. Pas juste de l'école, pas juste les médecins, pas juste les parents. Je ferais une grande table ronde, une sorte de questionnement de où on en est, quelles sont les forces de chacun, qu'est-ce que vous avez essayé qui fonctionne, quels sont vos bons coups. Et je contacterai aussi des professionnels qui savent réellement et encore qu'est-ce que c'est qu'un enfant. C'est-à-dire au-delà des normes, au-delà de toutes ces injonctions, de quoi un enfant a besoin. Et c'est tellement simple ce dont il a besoin qu'on serait capable ensuite de repenser les choses.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Grand plaisir.
Céline Lamy est pédopsychiatre, psychothérapeute. Je rappelle le titre du livre qui est chez Flammarion, « Le drame des enfants parfaits pour une permaculture de l'enfance. » on va s'intéresser ce matin à un tatoueur qui, lui, s'inspire de vidéos virales pour faire ses œuvres.
Ça arrive dans la foulée de la daine de Louisville, qui n'est plus d'ailleurs. Elle a été tuée avec une fronde et deux billes. En bon français, un slingshot et beaucoup de talent et de visous. Tout ça pour dire qu'une collègue qui m'a envoyé une photo d'une personne qui s'est fait tatouer une daine inspirée de la fameuse vidéo de la daine noire de Gatineau.
Elle a uriné dessus. Imagine-toi d'un cadre jusqu'à ce que ça peut faire. J'ai juste ce film-là dans ma tête. Elle va revenir, la daine noire.
Et le canevas de l'œuvre, c'est le visage de la daine agressive et c'est écrit « Guess who's back ». Là, je me suis dit, ça se peut pas, c'est une joke, c'est une blague. Non, ce n'est pas une blague, Paul. C'est fait par un tatoueur de Montréal. Il s'appelle Gitan Forcier. Imagine-toi donc, il a tatoué 5 fois la fameuse daine noire. Je vous rassure, ce tatoueur-là ne fait pas que ça. Il fait aussi des tatouages traditionnels. Donc, si vous voulez voir son travail en photo, dont la dinde, sur mon Instagram, c'est Gitan avec un J Forcier.
C'est 23.